Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bonjour à tous et à toutes. Je vous fais un épisode vraiment important aujourd'hui. Et je vais vous raconter un petit peu la genèse de cet épisode. Pour les personnes qui suivent sur les comptes Instagram, on a fait un talk sur Lyon, parlons sexe. C'était vendredi 2 février 2024. Avec une petite cinquantaine de personnes, quelque chose de vraiment intimiste pour pouvoir répondre aux questions, laisser le public interagir, et c'était vraiment très chouette. Merci pour vos retours d'ailleurs. On a pris note, et on a pris note pour la prochaine édition, car il y en aura une prochaine, dans une autre ville. On vous dira tout ça en temps voulu. Quand je dis « on », c'est important aussi de dire qui faisait partie de l'équipe, parce que vendredi soir, du coup, c'était la conférence, mais tout le week-end, on s'est vu entre sexologues. Donc, il y avait Virginie Clarinx, du compte Instagram Virginie-Clarinx-sexologue. Il y avait Jordi, du compte Instagram Jordi Oumira. Il y avait Céline Vendée, sexologue-thérapeute. Il y avait Marine, du compte Instagram Marlosexo. Et Myriam Bécry, du compte Instagram Myriam.thérapeute. Et moi-même, Camille Bataillon, du compte Instagram Camille Parle Sexe. Et l'idée de ce week-end entre nous, c'était de pouvoir réunir le vendredi soir nos communautés et parler ensemble, donc la conférence, et puis le reste du week-end entre sexos pour parler de nos métiers, de nos challenges, de nos questionnements, de partage d'outils, et puis parler aussi de nos vies perso, de jouer à des jeux, de profiter, de discuter jusqu'à 2h du matin. C'était très chouette. Mais du coup, pendant notre discussion, il y a quelque chose qui est revenu. Et en écoutant mes consoeurs, Myriam, Virginie et Céline, qui m'expliquaient les stratégies qu'elles mettaient en place quand elles sortent du cabinet ou quand elles reçoivent des patients, des patientes en cabinet, des stratégies qu'elles mettent en place pour se sentir en sécurité. Et alors, ce qui est chouette, c'est qu'on parle de plus en plus de la place des femmes dans l'espace public et ce sentiment d'insécurité et les stratégies mises en place quand elles sortent dehors, encore plus le soir. Même si statistiquement, on sait que la plupart des agressions se passent en journée et avec des personnes que l'on connaît, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même aussi des agressions qui se passent le soir avec des personnes qu'on ne connaît pas. Mais on ne parle pas encore beaucoup des stratégies que les femmes thérapeutes, que les femmes sexologues, et vous allez comprendre pourquoi aussi sexologues, mettent en place comme stratégie. sexologue, bah là déjà, on parle de notre métier, donc on parle de ce qu'on connaît, donc c'est pour ça qu'on parle de sexologue, mais je suis sûre qu'il y a des femmes thérapeutes qui nous écoutent et qui vont se reconnaître aussi là-dedans. Mais sexologue aussi, parce qu'il y a une certaine connotation vis-à-vis de notre métier, une certaine image. C'est déjà pas évident dans nos sociétés quand on est une femme et qu'on parle de sexualité, quand on est une femme et qu'on parle d'éducation sexuelle. Cette image que quand on est une femme sexologue, certaines personnes vont penser qu'on est là pour des services sexuels, ce qui n'est pas le cas, qu'on est là pour les séduire, qu'on aime le sexe, qu'on aime ça, qu'on est dévergondé, etc. Et donc toutes ces projections fantasmes qui peuvent des fois se projeter sur certaines thérapeutes. Vous allez entendre dans cet épisode, du coup, les partages des unes et des autres, Myriam, Céline, Virginie et moi-même, même si mon cas, il est un peu plus particulier. Vous allez voir, en fait, que chacune de nos cas peuvent être différents et c'est ça qui va être intéressant. Et tout du long, vous me direz à la fin de l'épisode, quand vous l'aurez écouté, mais vraiment, on sent dans la pièce que ça devient lourd. Que ça devient lourd et on est là à tourner la tête de droite à gauche, à se dire mais c'est pas possible en fait. De vraiment prendre conscience de ce qu'on met en place, de la charge mentale, de l'énergie, de la charge financière que mettent en place les femmes sexologues, les femmes thérapeutes pour avoir ce sentiment de sécurité quand elles exercent. Cet épisode s'appelle « Briser le silence, j'ai peur quand j'exerce ». Bonne écoute. Du coup, on voulait vous enregistrer un épisode parce que tout à l'heure, quand on marchait dans les rues de Lyon avec Virginie, Céline, Myriam et moi, Camille, il y avait Jordi quand même à côté.
Oui, un peu, bon, c'est pas grave, salut.
Mais bon, il participera pas trop à cet épisode, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on parlait de nos métiers sexologues et en tant que femme, on s'est rendu compte, hein, en discutant, toutes les stratégies qu'on mettait en place pour être en sécurité dans nos cabinets, dans notre vie de tous les jours. Mais là, on va se concentrer quand même dans le cabinet. Quelles sont les stratégies? Parce que toutes, vous mettez des choses des fois similaires, des fois différentes en place. Et pourquoi vous mettez des stratégies en place? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des expériences passées, des choses entendues, des choses vécues?
Bon, je commence. Donc c'est Virginie qui parle. Moi, j'ai jamais eu de problème de sécurité tant que je travaillais dans un cabinet pluridisciplinaire avec des collègues hommes. Je me suis toujours sentie en sécurité et je l'ai toujours été. Et puis la question s'est posée quand j'ai changé de cabinet pour diverses raisons, mais j'ai regretté mes collègues parce que je m'entendais bien avec eux et aussi parce que ça a changé la donne pour moi. À partir du moment où j'ai eu affaire à du harcèlement d'un patient qui m'attendait devant le cabinet, et donc j'ai dû prendre la décision d'acheter une bombe lacrymogène qui ne me quitte plus quand je ne connais pas les patients, quand je vais les chercher. Et puis le soir, quand je sors de mon cabinet, eh bien, je ne sors plus sur la porte qui donne directement dans la rue, parce que le soir maintenant, la nuit, il fait nuit et il n'y a plus de lumière dans la rue et ça m'insécurise. J'ai lu une étude selon laquelle il n'y avait pas plus d'agression quand il faisait nuit, mais moi, ça me fait peur quand même. Donc, je fais le tour, je sors par un autre côté où il y a des lampes qui s'allument et je travaille avec ma chienne qui me servira pas pour une défense mais qui me donnera l'alerte si toutefois quelqu'un m'attend dans la rue. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas envisagé avant de travailler seule dans mon cabinet. Donc oui, ça change les choses et j'ai éventuellement pensé aussi à mettre des caméras devant la porte d'entrée. Je regarde toujours à droite, à gauche, enfin vraiment je suis très vigilante depuis que je travaille seule. Voilà.
Et là c'est des éléments du cabinet, mais on pourrait parler aussi des éléments en tant que vie de femme de tous les jours, mais on se concentre vraiment sur le cabinet, c'est
oui,
super
sûr.
Intéressant. Merci.
Ouais, là c'est Myriam qui parle, on peut parler du cabinet, mais aussi on peut parler des réseaux, hein, parce que finalement, en tant que sexo, moi j'ai reçu beaucoup, je peux le dire, de dick pics, de photos de pénis, en fait, que je n'avais pas demandé, hein, donc bien souvent la photo elle est floutée, hein, au départ, et on clique ou pas dessus, quand on démarre, et ben, on ne sait pas ce qu'on... Donc on clique, et puis une fois, deux fois, trois fois... Et en fait, c'est hyper violent, déjà, hyper violent. Aujourd'hui, je ne clique même plus. Hein. Une photo, s'il y a pas un mot, quelque chose avec, ou quelqu'un avec qui j'ai l'habitude d'échanger et tout, je ne clique plus. Je pense qu'il y a, on a, cette violence, hein, quelque part, qu'on peut vivre, un, sur les réseaux. Là, les dick pics, c'est les grosses, mais après, il y a aussi tous les propos sexistes, toute cette non-légitimité aussi que viennent nous transmettre, nous partager aussi. Bien souvent, malheureusement, c'est des hommes. Hein, comment une femme parle de l'anatomie des hommes, comment c'est possible. Là où moi, je me dis, mais en fait, un gynéco-homme, il exerce depuis des centaines d'années. On n'a jamais questionné sa légitimité à connaître l'anatomie féminine, hein, là où nous, du coup, on est questionnés. Et on a le cabinet, effectivement. Et le cabinet, moi, la première stratégie que j'adopte, c'est ma tenue vestimentaire. Je fais très, très, très attention à ma tenue vestimentaire. Je ne mets jamais de décolleté au cabinet. Jamais, jamais. Si j'ai une jupe qui est un peu courte, parce que je ne m'empêche pas non plus de porter des robes, des jupes, etc., je vais mettre un collant qui est opaque. Et je vais faire attention à ce qu'on ne voie pas trop mes jambes. Je vais faire attention à ma tenue aussi sur mon canapé. Même si des fois j'aimerais détendre mes jambes, bah, j'ai souvent les jambes bien croisées et tout. Je fais très attention à ça. Et ça, c'est des stratégies hein, que je n'avais pas avant dans mon autre job. Et puis après, j'ai vécu aussi hein, une situation un peu compliquée au cabinet. Hein, un homme qui a eu du mal à gérer un petit peu, j'ai envie de dire, ses pulsions. Et qui une fois sur un départ de séance est revenu au cabinet tremblant, transpirant, m'expliquant que il savait bien qu'il faisait un peu n'importe quoi, mais qu'il avait besoin de me déposer, que en fait il avait envie de faire l'amour avec moi. Alors les termes étaient un peu plus familiers, hein, comme il les expose, et en me demandant si moi j'en avais envie, etc. Et là je me suis vraiment questionnée sur ma sécurité, parce que là je l'ai vu pas bien ce monsieur, et je me suis dit ok, là il était...
T'étais toute seule au cabinet.
Ouais, j'étais toute seule au cabinet, alors c'était sur un midi 2, je sais pas pourquoi, ça me fait peut-être moins peur que si ça avait été un 20h aussi, mais j'ai vraiment été très très mal. Alors j'ai dit là, faut pas qu'il sente dans ma voix, etc. Et là je me suis dit, mais en fait on a des gens qui vont pas bien hein, aussi, hein, parce que là faut pas aller bien hein, pour agir comme ça. Et comment je me protège de ça? Donc moi, la bombe acrymo, je m'étais dit, tiens, est-ce que c'est une solution? Mais en fait, il faut vraiment que j'ai tout le temps sur moi, parce que comme on discutait, hein, Camille, moi, la violence, ça me fige, hein, et de dire à quelqu'un, attendez, je sens que ça commence à pas aller, je vais aller chercher la bombe acrymo.
Oula, t'étais dans la cuisine, ta bombe, elle était peut-être dans ton cabinet, tu l'avais pas.
Je l'avais pas. Là, c'est sûr que ce jour-là, je me suis dit... Si vraiment il se contient pas un minimum, mais en fait il ferme mon cabinet là, il m'enferme avec lui, et en fait il se passe un drame, en fait il peut se passer un drame vraiment. Et ce questionnement aussi que je peux avoir sur le regard qu'ils peuvent avoir sur cette profession, et donc en l'occurrence sur la femme, et forcément c'est quelqu'un qui doit aimer le sexe, elle en parle, elle aime, etc. Et de me dire, mais peut-être un jour, alors sans fabuler, hein, mais de me dire peut-être un jour je tomberai sur quelqu'un qui m'attendra à la sortie, etc. Donc moi je suis jamais tranquille non plus. Quand je quitte le cabinet, quand je suis seule déjà au cabinet, je suis pas très à l'aise. Quand je quitte le cabinet en soirée, je suis pas à l'aise du tout. Et je regarde tout le temps aussi autour de moi, voilà, s'il y a pas hein, des patients que j'ai eu dans la journée qui est au coin de la rue, qui attend, qui m'observe, qui... Donc c'est vraiment des stratégies. Et une autre stratégie aussi que j'ai mis en place, alors celle-là elle peut être aussi un petit peu surprenante, quand j'ai un texto, quand je suis un couple et que j'ai un texto d'un des deux qui concerne le couple, en l'occurrence quand j'ai un texto de l'homme mais qui fait part d'une demande pour le couple, je réponds à la femme. Je réponds à la femme. Ouais.
C'est-à-dire
j'ai toujours les numéros des deux, hein, puisque j'ai leur fiche individuelle à chacun, et la personne va simplement me dire, bonjour, voilà, on souhaiterait décaler le rendez-vous, par exemple. Là, je vais dire, très bien, j'ai reçu votre message, mais je le fais à la femme.
Pas aux deux en même temps.
Moi, je fais aux deux.
Moi, je fais à la femme. Je réponds à la femme, en fait. J'ai les deux numéros, j'ai monsieur et madame, donc du coup, et c'est la femme, parce que, pareil, j'ai à cœur de... Enfin, je ne sais pas ce qui se passe dans leur relation de couple, je ne sais pas ce qu'ils projettent sur moi, je ne sais pas ce qu'ils peuvent se dire, et je me dis, je ne veux surtout pas qu'il y ait quelque chose autour de « elle, tu lui parles à elle », elle te répond à toi, et alors peut-être que c'est pas du tout justifié, hein, et je pense que pour une majorité ça n'est pas justifié, hein, parce qu'il faut quand même se dire que la plupart vont très bien, il n'y a aucun problème, mais je me dis, ben, ça pour moi c'est une précaution de plus
de répondre aux deux.
Moi je réponds, que ce soit l'un ou l'autre qui me contacte seul, je réponds systématiquement aux deux. Mais c'est quelque chose que je pose dans le cadre de la première consultation.
Ouais, ça marche aussi. Hein.
Voilà. Mais ce que tu évoquais, Myriam, sur l'expérience que tu as eue sur ta pause de midi, moi j'ai développé, c'est pas un TOC, mais c'est une vérification, c'est-à-dire que quand je vais chercher mes patients au rez-de-chaussée, parce que je consulte au premier étage, je vérifie qu'ils aient bien claqué la porte derrière eux et j'ai installé un interphone exprès pour que personne ne puisse rentrer pendant que je suis en consultation. Et ça, c'est pas quelque chose dont j'avais besoin quand j'étais dans un cabinet pluridisciplinaire. Donc voilà, il y a vraiment, en fait je me rends compte que voilà, il y a l'interphone, il y a vérifier, toucher la porte, vérifier qu'elle ne peut pas s'ouvrir, qu'elle est bien claquée, parce que sinon n'importe qui peut rentrer, et que je ne veux pas, moi, me retrouver comme toi, nez à nez avec quelqu'un. Et, j'ai aussi subi, et je continue, d'avoir des appels d'agressivité, parce qu'aujourd'hui je m'autorise à ne pas prendre une personne que je ne sens pas au téléphone. Donc se pose la question des réservations directement en ligne, mais je dirais un peu régler le problème, parce que maintenant quand on réserve en ligne chez moi, on paye sa séance. Donc ça filtre. Donc ça c'est clair. Et puis si c'est en visio, c'est pas un problème, il suffit de couper l'écran. Donc voilà. Mais par contre, quand je ne sens pas la personne, peut-être que je me trompe parfois, mais je ne donnerai pas suite. Ce qui peut donner lieu à du harcèlement téléphonique, des insultes, des menaces. Ce qui peut me faire ne pas du tout me sentir en sécurité, c'est par exemple des gens qui vont chatter avec moi via Facebook ou via la messagerie de mon site pour me dire « Ah, je vous ai vu faire vos courses, hein, j'étais dans le rayon d'à côté, puis vous y allez tous les mardis, et puis vous avez oublié une lumière mardi quand je suis passée devant votre cabinet ». Voilà, donc pour toutes ces raisons, plus le harcèlement, le patient devant mon cabinet, qui était un homme très grand, très large, et qui était aussi que je suivais pour un suivi judiciaire, donc c'est aussi un contexte particulier, je me sens beaucoup plus en sécurité maintenant que j'ai une bombe lacrymogène avec moi et mon chien, et voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même préoccupant, et que je pense que c'est pas normal. On devrait se sentir bien quand on consulte. Alors moi c'est mon cas, je me sens bien, mais j'ai toujours cette espèce de préoccupation quand je rentre, quand je sors, et pas seulement le soir, c'est pire le soir, mais voilà.
Alors, donc c'est Céline qui parle. Moi, mon cas est un peu différent parce que mon cabinet est aussi à mon domicile. Donc, le cabinet est aménagé pour que ce soit le devant de ma maison. Donc, les gens ne pénètrent pas dans la partie intérieure de ma maison, mais malgré tout. Et donc, c'est posé la question aussi de comment sécuriser cet espace-là, à la fois pour moi qui suis seule à la maison la journée, et donc au cabinet aussi, et sécuriser l'espace privé. Et donc on a effectivement installé un visiophone pour que je puisse filtrer visuellement qui sonne à l'entrée. Alors effectivement, si c'est un premier rendez-vous, je ne sais pas à quoi ressemblent les personnes, mais déjà ça peut me permettre quand même d'avoir une première approche, de ne pas être surprise peut-être par la carrure, etc. Je ferme systématiquement à clé, et j'ai même une chaîne de porte pour entrouvrir uniquement la porte et déverrouiller dans un deuxième temps pour également me laisser un temps de réaction, parce que ça m'est déjà arrivé que quelqu'un essaye, en fait, s'était trompé de cabinet, en fait, au bout de la rue où j'ai la maison et le cabinet. Il y a un cabinet médical, alors qui n'a rien à voir, puisque c'est un rhumatologue, mais du coup, des gens qui étaient en retard, certainement, à leur consultation, voulaient rentrer de force, quoi, en disant ben, j'ai rendez-vous vite, et donc ça m'a vraiment fait peur, parce que, ben, évidemment, c'était, j'avais pas envie que quelqu'un rentre ni dans mon cabinet, ni chez moi. Et donc voilà, le fait d'installer cette chaîne-là me sécurise aussi, ça me permet vraiment d'avoir ce temps de réaction. Moi aussi, j'ai acheté des bombes lacrymogènes. J'en ai une qui est notamment dans le canapé où je suis assise, qui est à portée de main tout le temps. Il y a une dans la configuration aussi, entre le fauteuil où la personne est seule et moi, il y a une table basse qui permet d'avoir quand même un obstacle aussi, si jamais, voilà... La personne se lève, ça me permet quand même d'avoir un temps de réaction. Je suis en face de la porte pour pouvoir rapidement évacuer si jamais j'ai besoin. Mais voilà, c'est des stratégies effectivement qu'on met en place et sur lesquelles on pense quand même tout le temps quand on accueille un homme seul notamment. Et effectivement, quand on est sexologue homme, certainement qu'on n'a pas ce type de réflexion. Je rejoins Myriam sur la tenue vestimentaire, moi aussi je réfléchis tous les jours à m'autoriser ou pas à mettre tel ou tel vêtement, telle ou telle tenue, comment la posture que j'ai, croiser les jambes, pas croiser les jambes, quitte à être inconfortable parfois, mais de pas décroiser les jambes quand on est en jupe, mais ne pas s'autoriser des jupes à une certaine longueur pour pas avoir trop de courbes de l'anatomie de ses jambes, enfin voilà, de pas mettre des talons trop ou trop fins, voilà, pour pas qu'il y ait de connotation, d'interprétation, pas mettre de maquillage trop accentué, ne pas mettre de décolleté, enfin voilà, c'est tout ça. Et des fois, ça m'arrive de regarder mon planning à l'avance et me dire, ah tiens, aujourd'hui j'ai que des femmes, peut-être que je peux m'autoriser à avoir une tenue un peu plus qui me corresponde et dans laquelle je me sens bien.
Et moi aussi,
ouais. Ouais, moi aussi. C'est fou quand même de se dire.
Plus cool.
Et quand c'est des consultations de couple, bah, je fais quand même hyper gaffe parce que justement, je voudrais pas que la femme ait la sensation que la sexologue soit en posture de séductrice ou que l'homme puisse interpréter aussi quelque chose, ne pas être en concurrence avec la femme du couple. Voilà, c'est hyper complexe. Alors peut-être que ça projette des choses chez nous aussi, effectivement. Mais malgré tout, je pense que peut-être qu'un homme, encore une fois, se pose moins cette question-là, de savoir comment il va s'habiller, se maquiller encore moins, mais quel type de chaussures, etc. Enfin... Donc, se sentir en sécurité, c'est quand même essentiel pour être un bon thérapeute. Hein. Donc, on a besoin de ça, mais ça nécessite effectivement une énergie dans ces stratégies.
Alors, ce que vous dites sur la tenue vestimentaire, ça me fait penser à quelque chose vraiment qui rebondit sur ce sentiment de sécurité. Après la période Covid, il y a une période où j'ai consulté... évidemment masqué, mais avec plus de distance, et surtout, peut-être je me trompe, c'était peut-être juste après, juste avant, je sais plus, c'était un moment où on savait pas trop, donc ça devait être juste avant en fait, pardon, mais j'ai ressorti mes tenues de bloc, parce que comme je suis infirmière, j'avais des tenues de bloc, donc cette espèce de pyjama de chirurgien, et j'ai ressenti une légèreté et un soulagement d'être dans cette tenue
neutre
qui m'était à distance, et j'étais trop bien dans mon pyjama, et en fait après, à partir de là, je me suis dit, est-ce que je devrais pas adopter cette tenue là pour travailler, qui serait neutre, qui serait une tenue professionnelle, un uniforme qui pose un cadre, mais j'ai trouvé que c'était trop médical, paramédical. Et en fait, je me rends compte que inconsciemment, vous me voyez, vous me connaissez, je suis aujourd'hui en combinaison, et en fait, c'est ma tenue. C'est-à-dire que je porte des robes, des jupes, il n'y a aucun souci. Mais en fait, très souvent, je suis en combinaison, et je change juste la couleur de ma combinaison, c'est un petit peu mon uniforme. Comme ça, je ne me pose plus trop de questions. Mais parce que c'est aussi un vêtement dans lequel je me sens bien, je me reconnais, et qui répond à tous mes critères, voilà. Donc ça fait l'unanimité pour moi, et c'est un peu mon uniforme. Voilà.
Ouais, quand je vous entends, il est lourd, je trouve, cet épisode. Quand je vous entends, j'ai tout du long, j'avais la tête comme ça qui faisait non, enfin genre, mais quoi, on est en train de mettre tout ça en place. Je pense que ça va parler à beaucoup thérapeutes ou pas, mais et puis les sexologues d'autant plus. Ça m'intéresserait de savoir justement d'avoir des retours. Des sexologues hommes, si vous mettez des stratégies en place, oui, non. Et est-ce que ça vous fait d'entendre aussi? On pourra laisser la parole à Jordi aussi par rapport à ça. Alors moi, c'est un peu différent, je fais de la visio, mais il y aurait aussi des choses à dire. Mais au tout début, quand j'étais en cabinet, même au tout début avant de me lancer, ma mentor, elle me disait, ne fais jamais de consultation à ton domicile, ne sois jamais seule à ton cabinet le soir. Et au début, en cabinet, où c'était un cabinet pluridisciplinaire, mais le soir, j'étais la seule. Effectivement, j'avais peur. Alors, j'ai jamais vraiment fait gaffe, par contre, à la tenue, au make-up, etc. Mais j'étais pas tranquille, effectivement, en pensant en plus à ce que ma mentor m'avait dit. J'ai pas eu de soucis. Et puis, la visio, maintenant, effectivement, aide beaucoup. Ça met de la distance. Par contre, je filtre quand même avant. ou quand les gens arrivent, enfin arrivent, book une séance, c'est en ligne, c'est avant, paye la séance et je demande un motif. Feeling, il y a des fois des motifs où je dis là je sais pas pourquoi je le sens pas, en plus l'email c'est un peu bizarre, je vais envoyer un mail pour me rassurer, pour voir un petit peu, pour checker la situation. La plupart des temps, du temps après, la personne, homme, va annuler la séance parce qu'aura compris que c'est pas exactement ce qu'il cherchait. Et ça, je pense que ça sauve. C'est dingue, on le sent, on le ressent. Et en visio, j'ai pas eu de personnes qui se masturbent pendant la caméra, etc., pendant la séance. Et si ça avait été le cas, effectivement, de remettre le cadre. Et puis, si c'est pas possible, on ferme, on peut essayer de mettre une distance. Mais pareil, c'est violent. C'est violent.
Ouais, cette méconnaissance du travail d'une sexologue, hein. C'est surtout ça, hein. Une sexologue. Dans certains, la vision, c'est la femme, comme je disais tout à l'heure, hein, qui est chaude, qui aime, qui va accepter, qui. Mais je voulais aussi revenir, tout à l'heure, tu parlais de l'interphone mis en place, etc. Et tu me proposais ça aussi quand on en discutait à Lyon, dans la rue. Et en fait, moi, je m'étais un peu renseignée sur ça, sauf qu'il faut que je change toute ma porte, déjà, du cabinet. Tout mon système, parce que du coup, ça me demande voilà, de mettre un système électrique, etc., qui ferait que voilà, ça puisse passer pour recevoir. Et ça, c'est 5000 balles, quoi. Et moi, je me dis, j'ai pas, déjà, je ne peux pas, deux, je ne veux pas, en fait. Ça veut dire qu'il rajoute encore ça rajoute une charge financière, quoi. Moi, je dois payer pour être protégée, alors que j'exerce professionnellement, enfin, tranquillement, quoi. Et que j'ai pas envie de ça, en fait. J'ai juste envie d'ouvrir mon cabinet le matin, de m'y sentir bien, de pas avoir peur, de repartir, je sais pas, comme une fleuriste pourrait faire dans son magasin. Et c'est tout, quoi. Et il y a ça aussi. Il y a cette charge aussi, qui peut se rajouter financière.
Oui, financière, 5 000 euros,
tu
quoi.
Tu mets la bombe, le verrou.
Moi, j'ai installé des lumières qui s'allument automatiquement sur mon passage pour ne pas être dans le noir, pour arriver à ma voiture, ou dès que je suis dans ma voiture, je m'enferme. Si jamais quelqu'un est caché, parce que bon, c'est fait d'une façon.
Et tu vérifies derrière dans ta voiture s'il n'y a pas quelqu'un.
Bah, une fois que je suis enfermée dans ma voiture, ça va. Mais jusqu'à ce que je sois dans ma voiture, je ne suis pas tranquille. Et je fais le tour, ça me demande voilà, plein de trucs. J'ai mis des lumières, j'ai effectivement mis une porte avec un interphone, et ça m'a coûté une blinde, et c'est moi qui finance ça.
Et c'est pas normal.
C'est pas normal. Vous devriez vous sentir libre.
Vous comprenez le coût des consultations maintenant.
Alors, je l'ai pas inclus dans les consultations, mais maintenant que tu m'en parles.
Plus taxe, se sentir en sécurité.
C'est pas normal.
Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter?
Éduquer les hommes, les femmes, au respect des professionnels, quel que soit leur sexe. Respecter le corps de l'autre, respecter la profession, respecter le cadre thérapeutique, mais qu'il faut poser, mais bon, qui est...
C'est pas notre responsabilité, peut-être se sentir attaqué, agressé.
Et puis être écouté, entendu, quand on va porter plainte en tant que professionnel, et être rassuré, et être... mise en sécurité éventuellement par les forces de l'ordre quand on va porter plainte. Je pense que ça devrait être peut-être facilité ou... Enfin, ça me vient là, mais j'imagine que ce serait pas mal, quoi.
Éduquer, informer, s'entourer, être entendu quand on porte plainte, être respecté.
Hein, croire.
Tout ce qui est dit.
Ouais.
Oui, oui, tout ce qu'on dit quand ça concerne des agressions et des violences faites aux femmes, finalement. Parce que là, on est en train de parler de notre profession de sexologue, mais en tant que femme. Et le problème, c'est ça. C'est ce qui nous met en danger, c'est d'être des femmes.
Qu'est-ce qu'on pourrait, là, pour des jeunes sexos, des jeunes femmes sexos qui se lancent, qu'est-ce qu'on aimerait leur donner comme... comme conseil, comme message, peut-être, sans terroriser non plus, mais des choses à garder en tête.
Travailler dans un cabinet pluridisciplinaire si ça permet de se sentir en sécurité, éviter d'être seule si c'est trop insécurisant, Ou si on préfère être seul en sécurité, ben, dans ces cas-là, on prend des mesures qui vont coûter de l'argent.
S'équiper.
S'équiper.
Faire de la visio aussi.
Oui.
Ça peut aider beaucoup.
Tout simplement.
Mais c'est pas évident, mais toutes ces stratégies-là en place, parce que ben, y a des expériences vécues, de ce qu'on entend, des histoires d'histoires. Ça m'intéresse, je sais pas, si Jordi, à notre écoute, s'il y a quelque chose que tu souhaites dire.
Non, mais moi, je suis... Franchement, c'est compliqué, parce que je suis à la fois écœuré, à la fois effaré de... d'autant de stratégies que vous devez mettre en place pour vous protéger. Moi, je trouve ça vraiment hallucinant. Et pourtant, enfin, je fais partie du milieu sexo dans le sens où je pense m'être renseigné sur beaucoup de sujets et m'être déconstruit sur pas mal de sujets et continuer à me déconstruire là-dessus. Et même en faisant partie de ce milieu-là, je me rends compte que j'ai pas encore conscience de la charge totale qui vous incombe à ce niveau-là. Alors, si j'essaie de me mettre à la place des mecs qui en ont rien à foutre, là, je me dis que c'est ultra flippant. Et franchement, s'il y a des mecs, là, qui m'entendent parler, ressaisissez-vous, mais tout de suite. Genre, arrêtez de faire de la merde, parce que c'est clairement le terme, il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus. En arriver à un point, à une situation où on doit se protéger de toutes les manières possibles, mais jusque dans l'ultra détail, quoi. On a l'impression d'être dans une mauvaise série Netflix, quoi. Moi, ça me fait flipper pour vous et ça me fait halluciner. Je suis désolé, je suis vraiment choqué de voir toutes ces... Parce que c'est vrai que c'est des sujets lourds, on peut en parler, mais rarement en rentrant dans le détail comme ça, tu vois. Donc oui, je sais que c'est compliqué pour une femme, etc., dans le monde d'aujourd'hui, de vivre encore plus, peut-être dans le milieu sexo, en tout cas dans vos situations personnelles là et professionnelles. Mais vraiment à ce point, à aucun moment, en plus en tant que mec, moi je suis tellement pas concerné. Là je me dis, mais gars, tu parles, mais t'es là, mais toi t'as la vie, t'as la paix, quoi, tu vois. Moi je suis là, à aucun moment je me fais ces réflexions-là. À aucun moment je me dis, j'ai peur de me faire agresser. À aucun moment je me dis, je vais me faire sauter dessus. À aucun moment je me dis, je vais acheter une bombe lacrymo, mettre une chaîne à ma porte. À aucun moment, quoi. Et enfin, je suis libre de toute charge mentale, libre de toute peur à ce niveau-là. Donc franchement, bah désolé vraiment que vous ayez à vivre ça, quoi. Et franchement, bah, moi je ne peux que encourager les mecs déjà déconstruits et bienveillants à entre guillemets répandre cette parole-là et dire à vos potes, à vos frères, à vos darons, j'en sais rien. Franchement, arrêtez tout de suite, quoi. Arrêtez tout de suite et changez tout de suite de comportement. C'est pas possible de vivre dans un monde aussi pourri où les femmes sont vraiment terrifiées à l'idée de pouvoir être agressées, peu importe la forme que ça prend, quoi.
Il y a beaucoup de projections et de fantasmes sur notre travail et je crois qu'on se doit de montrer les revers de la réalité du travail. C'est pas du tout le fantasme... De ce qu'on peut s'imaginer et du côté sympa glamourisé par les séries comme Sex Education et j'adore Sex Education
ou Instagram.
Sur les réseaux on vous montre les bons côtés mais ça c'est une réalité et vous devez la connaître si vous envisagez de vous installer en tant que thérapeute déjà en tant que femme seule dans un lieu et encore plus si vous souhaitez devenir professionnel de santé sexuelle.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'est un épisode, comme je disais en intro, pas évident. Vraiment, on est sorti de cet épisode encore avec plein de débriefing et en sentant lourde, en se disant mais vraiment, qu'est-ce qu'on peut... Enfin, moi, j'avais vraiment envie de dire, est-ce qu'il y a un message d'espoir ? Mais en fait, je sais pas, à part changer la société, à part, comme dit Jordi... Aux hommes et même aux femmes, hein, parce qu'il y a des femmes aussi qui peuvent agresser d'autres femmes en cabinet. Ne faites pas ça. Demandez de l'aide si vous n'allez pas bien et faites-vous aider, vraiment. On sait aussi qu'il y a des personnes qui sont malades mentalement et ça, c'est aussi une réalité. C'est la réalité de beaucoup de métiers aussi. Ce que je me demandais aussi, c'est est-ce que les hommes thérapeutes, et donc là, je m'adresse aux hommes thérapeutes qui nous écoutent ou aux personnes qui nous écoutent et qui connaissent des hommes thérapeutes, partagez-leur cet épisode, qu'ils viennent me faire un retour sur mon adresse email hello@camillebataillon.com ou sur ma page Instagram Camille Parle Sexe pour savoir, oui ou non déjà, si eux mettent des stratégies en place, si eux ont déjà pensé à tout ce qu'on a énuméré dans cet épisode, et si oui, qu'est-ce qui a été mis en place, parce que ça peut aussi être des choses différentes, ça m'intéresse aussi. Voilà, j'attends vos retours, et puis voilà, prenez vraiment soin de vous. Cet épisode peut être difficile à digérer, donc faites quelque chose qui vous fait du bien après, et surtout ne restez pas seul, c'est-à-dire d'être entouré, de pouvoir partager ça avec d'autres consoeurs, confrères, ça fait du bien, on se sent vraiment moins seul, hein. Les unes et les autres, on pensait qu'on était seuls à avoir mis ces stratégies en place, et en fait, en discutant, on se rend compte que, oh ben non, c'est notre norme. Et ça devrait pas être notre norme, ce n'est pas normal. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, et puis je vous souhaite une bonne semaine, et on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.